Excellent réveil à tous, voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Le Parlement britannique est suspendu jusqu'au 14 octobre prochain. Fin des débats pendant 5 semaines. Mais avant cela, les députés ont laissé Boris Johnson au pied du mur. Ils ne veulent pas d'élections anticipées ni d'un Brexit sans accord. Vous l'entendrez dans un instant, nous revivrons cette folle soirée au Parlement.
Les groupes automobiles polluent davantage que tous les habitants de l'Union européenne réunis. Greenpeace publie un rapport en ce sens. Ce matin, sa porte-parole s'en expliquera dans cette édition.
Nous entendrons aussi la réaction d'un sociologue sur les mesures d'Agnès Buzyn pour les urgences françaises. Avec 750 millions d'euros et une nouvelle plateforme téléphonique notamment, la ministre n'a pas convaincu grand monde.
Un an après le plan pauvreté du gouvernement, une trentaine d'associations demandent plus de cohérence dans la politique du gouvernement. Bilan de mi-mandat à suivre.
Et puis vous comprendrez pourquoi les oasis sont de moins en moins nombreux, surtout au Maghreb. Et comment faire surtout pour les protéger et ralentir la désertification. Il a subi tous les camouflets possibles. Boris Johnson a été une nouvelle fois hier soir désavoué à la Chambre des communes. Les députés britanniques ont refusé l'organisation d'élections anticipées dans le pays. Le Premier ministre n'a obtenu que 293 voix, loin des 2/3 des sièges requis. L'opposition, elle, réussit pour l'instant son pari. C'est ce qu'a constaté Antoine Géniaud lors des débats jusque tard hier soir.
Abstention et boycott, une nouvelle fois, l'opposition refuse d'organiser des élections. Trop risquées, le gouvernement pourrait profiter de la campagne pour déclencher en douce un Brexit dur, explique Jeremy Corbyn, le chef de file des travaillistes.
On les attend avec impatience ces élections, mais si enthousiaste que l'on soit, on n'est pas prêt à prendre le risque d'infliger le désastre d'un Brexit sans accord à nos communautés en mettant en péril nos emplois, nos services publics et nos droits.
Symboliquement, quelques députés empêchent même le président du Parlement de quitter son siège pour annoncer la suspension de session décidée par le Premier ministre. Mais malgré les huées, Boris Johnson, lui, ne change pas de discours et il jure de faire aboutir le Brexit.
Quels que soient les dispositifs que ce Parlement invente pour me lier les mains, j'avancerai à grands pas pour conclure un accord qui soit dans l'intérêt de la nation.
Une nation de plus en plus divisée, le visage écarlate, Ian Blackford, le chef des indépendantistes écossais, lance « Ce gouvernement ne représente ni les Écossais, ni nos souhaits ».
Et nous retrouvons maintenant Antoine Géniaud, plus au calme, en dehors du Parlement britannique. Boris Johnson s'entête donc et ne veut pas repousser le Brexit prévu le 31 octobre. Que peut-il faire maintenant, Antoine ?
Le Premier ministre a très peu de marge de manœuvre. Il peut choisir, malgré la loi votée par les députés, de précipiter le pays vers une sortie sans accord en contestant le texte devant les tribunaux. Plusieurs élus conservateurs affirment qu'il y a des failles juridiques. L'autre solution reste évidemment de trouver in extremis un terrain d'entente avec Bruxelles, notamment sur la question de la frontière irlandaise. Boris Johnson pourrait accepter, dans les semaines qui viennent, de créer une zone tampon en laissant, après le Brexit, le nord de l'île aligné sur les réglementations et les normes européennes. C'était d'ailleurs l'idée de départ de Theresa May il y a 3 ans, mais elle avait été abandonnée sous la pression des députés unionistes nord-irlandais. À l'époque, la première ministre avait désespérément besoin d'eux pour conserver sa majorité. Boris Johnson, lui, n'a plus rien à perdre et joue tout son avenir politique sur une sortie rapide de l'Union européenne.
Antoine Géniaud depuis Londres pour France Culture. J'ajoute que les députés hier ont aussi voté l'obligation pour le gouvernement britannique de publier des documents confidentiels sur l'impact d'un Brexit sans accord. L'exécutif est soupçonné de l'avoir minimisé. Comment maintenir l'ordre dans une chambre parlementaire? C'est a priori compliqué outre-Manche. Nous l'avons entendu dans le reportage d'Antoine Géniaud. Frédéric Seyss y reviendra dans son billet politique après ce journal. L'industrie automobile a émis l'année dernière plus de gaz à effet de serre que l'ensemble de l'Union européenne, c'est-à-dire 1/10 des émissions mondiales. Ce bilan est réalisé par l'ONG Greenpeace, qui place au sommet des plus gros pollueurs Volkswagen, devant Renault, Nissan, Toyota et General Motors. Une bien mauvaise publicité alors que s'ouvrira jeudi le salon automobile de Francfort en Allemagne, placé sous le signe de l'électrique. Les constructeurs automobiles nous mentirait-il ? Réponse de Sarah Fayol, porte-parole au transport chez Greenpeace France.
L'argument des constructeurs automobiles, effectivement, c'est de dire qu'ils réduisent progressivement les émissions moyennes de leurs véhicules. Il faut juste prendre en compte le fait que ces réductions d'émissions, elles sont très limitées. Elles nous placent sur une trajectoire qui est toujours incompatible avec les objectifs climat de l'accord de Paris. Que souvent, ces émissions, il y a un écart qui est très très fort entre les résultats des tests qui permettent d'homologuer ces voitures et les émissions réelles de ces voitures sur la route. Et puis, ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que déjà, ces réductions d'émissions sont modestes. Et en plus, les constructeurs automobiles mettent sur la route des véhicules plus gros, plus lourds, plus émetteurs. Par exemple, dans l'Union européenne, la part de marché des SUV est passée en 2008, on était à 8%, en 2018, on est à 32%. Aux États-Unis, par exemple, la part de marché des SUV, c'est déjà 69%. Les quelques progrès qu'ils font, ils les annulent eux-mêmes en mettant sur la route des véhicules plus émetteurs, plus polluants.
C'était Sarah Fayol, porte-parole au transport chez Greenpeace France. Qui pour sauver Aigle Azur? La compagnie aérienne française a reçu 14 offres, notamment d'Air France et d'Air Caraïbes, principalement des projets de reprise partielle. Tous les candidats ont maintenant 48 heures pour affiner et chiffrer leurs propositions avant une décision du tribunal d'Évry prévue la semaine prochaine. Les questions de transport et de mobilité encore, avec la reprise des travaux dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale aujourd'hui et le projet de loi LOM en séance publique, comprenez loi orientation mobilité. Il arrive en deuxième lecture et il aborde des sujets aussi vastes que l'avenir du ferroviaire, la pratique du vélo ou le sort des travailleurs des plateformes de livraison. Les relations d'ailleurs entre les livreurs et les plateformes pourraient être régulées en France grâce à cette loi. Et cela passerait par une charte, Anne-Laure Chouin.
Ça n'est pas la première fois que l'idée d'une charte encadrant les relations entre les plateformes et leurs livreurs est portée par le législateur. La dernière fois, c'était dans la loi Avenir professionnel de Muriel Pénicaud et le Conseil constitutionnel l'avait retoquée. Ces chartes reviennent donc par la fenêtre et suscitent toujours autant d'opposition, trop peu contraignantes pour les uns, élaborées par les seules plateformes pour les autres. Aurélien Taché est le député LAREM à l'origine de cet amendement charte. Il concède qu'elles ne peuvent pas se substituer à un véritable espace de dialogue social dans les plateformes, mais pour lui, c'est un début.
Aujourd'hui, c'est insuffisant pour amorcer une vraie discussion. Et c'est bien pour ça que moi, j'avais proposé qu'on puisse mettre en place des élections professionnelles et qu'on ait des travailleurs qui soient désignés par leur pair pour négocier ensuite avec les plateformes. Le gouvernement n'a pas retenu cette proposition en tant que telle, mais s'est engagé à légiférer sur cette question et on a donc voté le principe d'une ordonnance dans la loi LOM qui doit conduire le gouvernement à faire des propositions sur la manière dont ces travailleurs se sont représentés.
Pas suffisant pour le Conseil national du numérique, dont l'une des missions est de conseiller le gouvernement sur l'économie ubérisée. Par la voix de sa présidente, ce même conseil s'oppose à ces chartes. À travers elles, l'État se défausse de sa mission de protection sociale, qui se retrouve alors gérée par les entreprises elles-mêmes. Et c'est très inquiétant pour sa loi Toco.
On ne peut pas se permettre que des travailleurs aient moins de droits au sein de notre société. Il est dommage en fait qu'on laisse des années de lutte sociale, de droits sociaux s'effriter au nom de l'économie numérique.
Le Conseil national du numérique, qui analyse la timidité gouvernementale à légiférer dans ce domaine des travailleurs indépendants, comme une volonté de ne brider ni l'innovation ni l'emploi.
Le collectif Interurgence se réunit aujourd'hui en Assemblée Générale pour décider de la suite à donner à son mouvement qui dure depuis 6 mois maintenant dans les établissements hospitaliers. La CGT, elle, appelle déjà à manifester demain car peu de professionnels dans les urgences ont été convaincus hier par les mesures d'Agnès Buzyn. L'enveloppe est importante, certes, 750 millions d'euros sur 3 ans, mais elle servira de moitié à créer un service d'accès aux soins sur Internet et par téléphone, une plateforme pour engorger les urgences en aiguillant mieux les potentiels patients tout en dynamisant la médecine de ville. Frédéric Pierru est docteur en sciences politiques, sociologue et chargé de recherche au CNRS. Au micro de Thomas Larabi, il estime que la ministre n'a pas été assez loin dans l'application de son diagnostic.
Agnès Buzyn fait le bon diagnostic, c'est-à-dire que effectivement l'engorgement des urgences est lié à une défaillance de l'amont de l'hôpital, c'est-à-dire de la médecine de ville. Sauf que Agnès Buzyn, dans le sillage de ses prédécesseurs, je dirais dans une logique de volontariat, d'encouragement, d'incitation, y compris financière, pour la médecine de ville, autant de mesures qui n'ont pas fait leur preuve, sinon on ne serait pas dans la crise des urgences actuelle. Quand Agnès Buzyn dit par exemple, il va falloir que la médecine de ville prenne en charge plus d'urgences, enfin de fausses urgences par rapport aux 2% d'urgences vraiment urgentes qui vont à l'hôpital, il faudrait résoudre déjà le problème des déserts médicaux, mais comme elle ne veut pas toucher à la liberté d'installation, c'est raté. Quand on en est dans des préconisations du type créer en cabinet, en maison et un centre de santé une alternative complète et attractive, on est plus dans un vœu pieux que dans la réalité. Hein. La réalité, c'est que de moins en moins de médecins de ville font des gardes. Et vous retrouvez les gens aux urgences.
Les urgences et son conflit qui dure donc depuis 6 mois maintenant. Nous y reviendrons après cette édition avec les invités des matins de France Culture, médecins et économistes. La France va-t-elle reconnaître les enfants nés de GPA, de gestation pour autrui, c'est-à-dire d'une mère porteuse? Nos confrères de France Info affirment que oui, ce matin. La mesure devrait entrer en vigueur dans les prochaines semaines pour ne pas être débattue dans le cadre du projet de loi sur la bioéthique.
Vous écoutez les matins de France Culture, il est 8h10, c'est la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. Que reste-t-il du plan pauvreté lancé par le gouvernement il y a un an?
Alors certains chantiers ont été lancés, comme la réforme de l'accompagnement des bénéficiaires du RSA, mais aujourd'hui, une trentaine d'associations de solidarité soulignent qu'un certain nombre de mesures de la part du gouvernement ont eu l'effet inverse, aggravant la situation des plus pauvres en France. Elles citent la baisse des APL, la désindexation des allocations logement et des prestations familiales. Claire Hédon, présidente d'ATD Quart Monde, regrette ainsi le manque de cohérence.
La réalité de la pauvreté, c'est un non-accès aux droits, que ce sont le droit au logement, au travail, à une éducation de qualité, à un accès aux soins, à la culture. Si on ne travaille pas sur ces droits-là, qui sont indivisibles, et sur l'ensemble de ces droits, on ne va pas dans le bon sens. L'accumulation de dispositifs a montré ses limites, et c'est pour ça que la stratégie de lutte contre la pauvreté ne suffit pas, même s'il y a des choses intéressantes, si le reste des lois ne va pas dans le bon sens. Et le sentiment qu'on a pour l'instant, c'est que le reste des politiques publiques ne vont pas dans le sens d'une éradication de la grande pauvreté. Sur le logement, à mon avis, a un effet contraire, avec une baisse de la construction de logements sociaux, avec aucune réflexion sur l'accès au logement des plus pauvres. La question du travail est essentielle, et si on diminue l'accès à l'assurance chômage pour mettre les gens au RSA, c'est pas comme ça qu'on luttera efficacement contre la pauvreté. Pour l'instant, le sentiment qu'on a, c'est qu'il y a un certain nombre de lois qui vont à l'encontre de la lutte contre la pauvreté. C'est pour ça que nous, on demande l'évaluation de toutes les politiques publiques et des lois sur les 10% les plus pauvres. Comment ça les touche? Est-ce que ça permet aux 10% des plus pauvres de sortir de la pauvreté ou au contraire ça les enfonce?
Elle pourrait répondre peut-être. Emmanuel Macron doit s'exprimer aujourd'hui sur l'insertion par l'activité économique. L'Élysée demande la levée du secret défense dans le dossier du crash de la caravelle Ajaccio-Nice. L'avion s'était écrasé en 1968, tuant 95 personnes. La levée du secret défense devrait permettre de savoir si un tir de missile a abattu l'engin. C'est une réalité en France, une histoire qui se répète. L'esclavage moderne existe et les procès se multiplient. Hier à Nanterre, un couple burundais était jugé pour délit de soumission à un travail forcé et contraire à la dignité. Le parquet a requis à leur encontre 3 ans de prison, dont un avec sursis. Eux nient les faits, comme nous le raconte Fiona Mogadam après l'audience.
L'ancien ministre et sa femme sont restés très sûrs d'eux, bien droit à la barre. Lui dans son costume bleu à fines rayures, elle dans un ensemble bleu à dentelle. Madame s'est toujours occupée du foyer. Monsieur raconte avec fierté avoir étudié le droit à la Sorbonne avant une brillante carrière au Burundi. Professeur d'université, procureur, ministre de la Justice, puis conseiller juridique à l'UNESCO en France. Alors la présidente interroge comment s'est-il retrouvé dans cette affaire. J'ai été victime de mon désir de protéger Méthode, répond l'ancien ministre. Méthode Sindaï Gaïa, 39 ans désormais, a passé 10 ans dans la maison cossue du couple à Ville d'Avray. Venu en France pour s'occuper d'un de leurs fils autistes, il raconte toutes les autres tâches qu'il occupait 19 heures sur 24, 7 jours sur 7 dans la maison. Sa chambre, la cave où il dormait à côté de la chaudière et ses douches avec un seau dans les toilettes à la turque. Méthode Sindaï Gaïa relate aussi avoir dû s'agenouiller devant les époux. À ces mots, le retraité de l'UNESCO explose, les yeux dans les yeux, je ne vous ai jamais dit cela. Un emportement dont il s'excusera quelques heures plus tard. Sur leur ligne de défense, les époux ne faillissent pas. Pour eux, Méthode ne devait rester que quelques semaines en France. Il était libre comme l'air. Jamais ils ne lui ont confisqué son passeport. C'est juste lui qui ne voulait pas repartir au Burundi.
Et la défense, elle, plaide la relaxe. Décision prévue le 21 octobre. Voilà une conférence peu connue qui fait écho aux récents incendies en Amazonie, par exemple. La 14e COP sur la désertification. Elle se tient jusqu'à vendredi en Inde et elle se penche notamment sur les oasis qui disparaissent. Sébastien Farcy.
Depuis des siècles, les oasis réussissent à faire verdir certaines zones du désert. Mais aujourd'hui, elles sont menacées par les baisses de précipitations. C'est ce qu'explique Patrice Burger, fondateur de l'association CARI et animateur d'un réseau de développement des oasis du Maghreb, le Rado.
Le sort aujourd'hui qui est fait aux oasis est inquiétant. D'abord parce qu'elles sont très très attaquées par le changement climatique, le réchauffement, la baisse de l'eau. Les gouvernements ont oublié d'y mettre des hôpitaux, des systèmes éducatifs, etc. Donc les forces vives sont parties dans les villes et il y a une partie aujourd'hui des oasis qui vivent sous perfusion. Elles ne sont pas encore perdues, mais il est temps, très sérieusement, temps qu'on s'en occupe.
Au Maroc, une des armes contre cette désertification s'appelle le Kétara. C'est un système ancestral composé de galeries souterraines qui vont chercher l'eau de la nappe phréatique à plus de 5 km de l'oasis. Hasna Hassini de l'association AOFEP lutte pour préserver ces Kétara.
Vous voyez des palmeraies qui sont dégradées parce qu'on n'a pas de l'eau dans les endroits où il n'y a pas d'Khtara, par exemple. Avec l'Khtara, les populations oasiennes arrivent à conserver cet écosystème important.
Un tiers de la population marocaine vit dans les oasis. La disparition de ces espaces entraînerait donc des migrations importantes et incontrôlées vers les villes.
C'était Sébastien Farcy, correspondant de RFI pour France Culture en Inde, où se tient donc cette conférence méconnue qui est la COP sur la désertification. Pour en savoir plus, rendez-vous sur France Culture. Culture.fr. Très rapidement, la météo de ce mardi en France. Il pleut sur le sud du pays. Ailleurs, les nuages seront bien présents et il fait toujours frais. 15 degrés ce matin à Nantes, 16 à Dunkerque, Strasbourg et Lyon, 18 à Paris et à Marseille.
Merci, Clara Lecoq-Réal.